à toutes et à tous, vous êtes bien sur le 87.7 FM Radio Campus Amiens et vous écoutez Info Club Sandwich. Aujourd'hui, je reçois le jeune rappeur Dry Sift qui vient nous parler de son nouveau projet, Shitsuren. Donc, salut Dry Sift, comment ça va ?
Bah écoute, super, et toi ?
Ça va super, on est content de t'avoir à Radio Campus Amiens.
Bah ça fait plaisir aussi, merci beaucoup pour l'invitation.
Donc tu viens de sortir un EP 5 titres intitulé Shitsuren.
C'est ça.
Le vendredi 26 avril dernier.
Exactement.
Shitsuren, ça veut dire cœur brisé, je crois.
Exactement.
Comment ça t'est venu ce nom ?
Je me suis un peu pris la tête, mais en même temps, j'ai essayé d'être simple. Et en fait, la photo, quand je l'ai vue, je l'ai trouvée super cool, la photo de la cover. Je l'ai trouvée très jolie, mais en même temps, je l'ai trouvée triste un peu, tu vois. Et moi, cette photo-là, elle m'a un peu brisé le cœur. Parce qu'en fait, tu vois, la vie, c'est beau, mais c'est pas forcément heureux tout le temps, tu vois. Et en ce moment, je suis un peu en train de passer un passage dans ma vie où c'est un peu comme ça, tu vois. Et je me suis dit que ça collait parfaitement avec les sons. J'ai demandé un petit peu l'avis à mes gars. Ils m'ont tous dit que ça collait grave avec l'univers que j'essaie de transmettre. Donc j'ai choisi cette image. Et puis voilà. Sur les 5 titres, j'ai essayé de retransmettre un petit peu ce que je vis depuis cette dernière année. Et puis voilà, quoi. J'ai essayé un petit peu de faire passer un message comme ça, assez subtil. Et puis ça a donné un rendu assez cool. Donc j'ai posté l'EP.
Et justement, au niveau de la cover, est-ce que tu peux nous en parler un peu ? Est-ce que tu peux la décrire déjà pour les auditeurs ?
Ouais. Alors la cover, c'est deux mariés qui sont en train de manger un McDo, on dirait. Et en fait, quand tu regardes bien la photo, tu vois que ouais, ils ont pas l'air... Ça n'a pas l'air d'être un mariage, tu vois, ils ont pas l'air heureux de ouf. Et en vrai, ouais, moi, c'est ça qui m'a touché sur la photo, tu vois.
Et tu l'as trouvé où ?
Je l'ai trouvé sur Pinterest.
Ok.
J'ai fouillé un petit peu, j'ai trouvé. Je sais pas du tout si j'ai les droits, mais j'ai posté quand même. Pour l'instant, j'ai pas eu de soucis, donc c'est carré. Hein.
Qu'est-ce qui t'inspire, toi, dans la culture nippone ?
Moi, il y a un truc qui me rend fou, c'est le Bushido, tu vois. La loyauté, l'honneur et tout. Et genre, pour moi, c'est des trucs hyper méga importants. Surtout de nos jours, parce que les valeurs, elles se perdent. C'est difficile de trouver des amis loyaux, une compagne loyale, tu vois. Donc, moi, c'est un truc que ça me touche vraiment beaucoup.
C'est ton code d'honneur un peu.
C'est exactement ça. J'aime beaucoup l'esprit japonais.
Et c'est une culture nippone qu'on ressent aussi dans les prods, qui sont également de toi, je crois.
Alors, sur le projet. Il me semble si... Ouais, j'ai fait toutes les prods. J'ai fait toutes les prods, j'ai mixé, masterisé moi-même tous les sons, sauf la deuxième track, où ça a été au studio Inconnu.
D'où ça t'est venu, toi, cet aspect de faire des prods ? T'as commencé par rapper ou par faire des prods déjà ?
Alors, j'ai commencé par rapper il y a 4 ans. Et en fait, très vite, j'ai commencé à faire des prods parce que je me baladais sur YouTube et je passais des heures et des heures à pas trouver ce que je voulais, en fait. Et j'ai commencé par faire des prods. Bon, au début, c'était nul, forcément. Et en fait, je me suis découvert quand même une passion pour la compo. Et en plus de ça, en fait, j'ai réussi à trouver un peu une technique pour pouvoir faire sonner mes prods japonaises, en fait. Et j'ai trouvé que le rendu était incroyable. Et moi, les notes, en fait, les notes utilisées pour faire un petit peu des sonorités japonaises, pareil, elles me rendent fou. Je trouve ça magnifique, tu vois.
Et comment ça s'est déroulé, la création de l'EP ? Est-ce que tu t'es imposé une ligne directrice dans les sons ?
Pas vraiment. Mais heureusement, en fait, comme je fais les sons chez moi, j'ai beaucoup de temps. Donc, je passe énormément de temps dessus et ça me permet d'être très créatif. Et en fait, je produis. Et généralement, en fait, dans ma production, c'est toujours plus ou moins dans la même lignée. C'est le même esprit un peu. Donc, je produis mes sons sans me prendre la tête. J'essaye de créer une tracklist cohérente. Et généralement, en fait, tout est cohérent, quoi. Et quand c'est pas cohérent, je poste pas le son, je le refais, je m'arrange.
Et là, pour cette EP, qu'est-ce que t'as fait en premier ? T'as fait la prod et après, t'as écrit dessus ?
J'ai fait les sons un par un et à chaque fois, ça se passe pareil, je fais la prod.
Ok.
Et une fois que la prod est terminée et qu'elle m'inspire, j'ouvre un projet FL et je pars en cacahuète dessus. J'essaye de faire mon son. Des fois, ça passe de ouf. Des fois, ça passe pas. Quand ça passe pas, généralement, je m'y attarde pas, tu vois. Et je passe à autre chose.
Dans ce projet, il y a un seul feat,
ouais.
Avec Zomat,
Big Zo,
avec qui tu as déjà sorti un EP en 2022.
Exactement.
Too High, Too Step.
C'est ça.
Est-ce que tu peux nous parler un peu de cette collaboration ? Comment elle s'est faite sur cet EP ?
Bah, franchement, avec Zomat, c'est grave naturel. Déjà, quand on a commencé à faire un petit peu du son ensemble, le courant il est passé tout de suite. C'est un gars extrêmement talentueux. Moi, je pense que même Zomat sur Amiens, il fait partie de la fine fleur du rap, tu vois. Et ouais, ça s'est fait naturel. On se connaissait déjà, on était potes. on a commencé à faire du son, en fait, ça roule tout seul, quoi. Donc, très régulièrement, on se capte, on fait du son ensemble, et souvent, il en sort des gros bangers comme Garde la foi, quoi.
Donc, justement, Garde la foi, on va s'écouter tout de suite, si tu veux bien.
Yes, let's go.
Il faut que tu crois en toi. Tu crois en toi. Prends pas tes décisions en fonction d'une. Tu ne crois en moi. Tu ne crois en mon papa il m'a dit mes fistos a pas le mental.
Il a pas le mental.
Mes fistos il m'a dit tous les dieux veille sur l'argent sale.
Ma maman elle m'a dit quand tu seras plus grand garde la foi en toi. Demande lui de l'aide. Même si dans ta tête y'a des hauts et des bas comme si c'était la foire en toi. Dieu il m'a dit tu peux boire. Mais faut pas trop voir, si tu fermes les yeux, tu peux pas trop voir.
Sois-en sûr, le très haut est loin. Et ils veulent me faire croire que c'est moi qui est loin. Mais y'a plein de censures. Je vois qu'il y a plein de censures.
Sois-en sûr, le très haut est proche. Même s'il y a plein de sans suite, je reste à l'écart, moi je veux pas pécher comme une plainte sans suite.
Le très haut est proche, mais j'y suis pas sensible. Je suis très haut mais proche, mais je suis pas le sensible.
Je suis sur la scène et c'est le zbeu. Et quoi que tu dises, moi je crois en Dieu.
Tous les jours je prie pour ne pas faire d'erreur. J'ai le bras musclé mais je suis pas fédéraire. Comme Dieu les humains, je veux les voir fédérer.
Les anges me parlent dans tous mes cauchemars. Mais pour moi c'est des rêves. Je prends le temps et pour moi toutes les meufs c'est des reines.
Je fais des cauchemars tous les jours et j'ai peur.
J'avoue j'ai le seum quand je vois que tu rétors.
Dieu me rassure quand le soir je vois les ports.
Frère,
Dieu me rassure quand je remue ciel et terre.
J'ai foi en personne, j'ai pas foi en vos pères.
Moi j'ai foi en mon père et en notre père qui est aux cieux. C'est le seul de l'univers à être au-dessus.
Très haut. J'ai le syndrome du traumataire. J'ai tellement travaillé que maintenant je suis bossu.
Je me fais contrôler et d'un air supérieur il me demande ouais putain vas-y tu bosses où.
Parce qu'en fait tu vois quand on se fait contrôler et qu'on est arabe, il nous demande tout le temps est-ce qu'on travaille. Il nous croit pas ces fils de pute.
Je fais des cauchemars tous les jours et j'ai peur.
J'avoue j'ai le seum quand je vois que tu es tort.
Dieu me rassure quand le soir je vois les ports.
Frère, j'ai foi en personne, j'ai pas foi en vos pères.
Donc c'était le son Garde la foi.
Yes.
De Dry Shift en feat avec Zomat. Justement dans ce son tu parles un peu à un moment d'injustice sociale. Avec les contrôles de police, tout ça, ce qui fait un peu malheureusement l'actualité depuis trop longtemps.
Malheureusement, ouais.
C'est quelque chose qui t'inspire pour écrire l'actualité ?
Carrément de ouf. Après, je t'avoue, j'essaye de rester en dehors de toute politique, parce que, voilà, moi, mon seul chef politique, c'est Dieu, tu vois. Mais oui, c'est vrai que je me gêne pas pour dénoncer les situations d'injustice, parce que l'injustice, ça me touche énormément, tu vois, je déteste ça. Et malheureusement, quand on est arabe ou étranger ou typé, c'est ce qu'on vit quasiment tous les jours. Le racisme, un peu caché parfois, et il n'y a pas besoin d'habiter en cité en fait pour le vivre, tu vois. Et ça, c'est triste, c'est triste malheureusement.
Donc tu nous parlais de Dieu, la religion, c'est aussi un thème important dans tes sons. Est-ce que tu peux nous en dire un peu plus ?
Très très important. Moi, la foi pour moi c'est un des piliers actuellement dans ma vie, et c'est ce qu'on a voulu retransmettre un peu dans le son. Faut savoir que moi je suis très croyant, Zomat l'est pas du tout, et pourtant on arrive quand même à se mettre d'accord sur beaucoup de choses, et ça nous empêche pas d'être amis en fait, tu vois. Et je t'avoue quoi, dans ce son mon objectif c'était un petit peu de prêcher limite, tu vois. Et je pense que c'est important que les gens se reconnectent avec Dieu, surtout par les temps qui courent, parce qu'on vit des moments très difficiles et ça va faire que s'empirer en fait. Donc pour moi c'est important de véhiculer un message un peu d'espoir et de rappeler aux gens que Dieu est là et que la spiritualité, c'est important.
Et en dehors de tout ça, qu'est-ce qui t'inspire, toi, pour écrire ?
Beaucoup de choses. Déjà, la musique. J'aime beaucoup m'inspirer d'autres musiques, en écouter. Après, je suis très, très critique, très difficile. Mais je m'inspire beaucoup de musique, beaucoup de la pop culture. Donc, jeux vidéo, films, manga, tout ça, je pense que ça se ressent. Hein. Et puis, sinon, mon vécu. Mon vécu, mon quotidien, mon passé, je m'en inspire énormément.
Et au niveau de ce que t'écoutes, est-ce que t'as des recos à nous faire ?
Franchement, ouais.
Que t'écoutes le plus en ce moment?
J'écoute énormément de trucs. Après, je t'avoue, mon petit coup de cœur, c'est Old Ways. C'est un son qui est sorti il n'y a pas très très longtemps. Je saurais pas te dire exactement l'artiste. Je crois que c'est Jay Manuel, un truc comme ça.
Ok.
C'est, et justement, c'est du rap chrétien. Et les frérots, ils sont américains. Et quand t'écoutes ça, mais vraiment, tu vois, quand tu comprends pas les paroles, jamais de ta vie tu te dis c'est du rap chrétien, tu vois. Mm. Et c'est pas, tu vois, c'est pas gnangnang, on va dire, tu vois.
Ouais.
Et en ce moment, j'écoute beaucoup ce son-là. La prod, elle est incroyable. Je crois qu'actuellement, c'est mon son préféré du moment.
Et le rap chrétien, en vrai, c'est quelque chose qui se fait pas mal aux États-Unis. Mais ouf. En France, on...
Bah, de ouf. Enfin, mais c'est tout de suite, comment on dit ?
C'est assez connoté.
C'est ça. On, tout de suite, les gens vont s'imaginer que ça va être des récitages de versets, tu vois.
Ouais.
Alors que pas du tout. Tu vois, tu peux très bien parler de Dieu dans tes sons. Enfin voilà, en restant dans l'air du temps. Voilà, c'est ça que je voulais dire, tu vois.
Donc, tu nous en parlais aussi au début de l'émission. En ce moment, c'est une période entre tristesse et bonheur. C'est vrai que dans l'EP, moi, je ressens une certaine mélancolie,
ouais.
Malgré des phases qui sont pleines d'ego trip, tu vois.
Ouais.
C'était facile pour toi de mettre ça un peu en balance ?
Ben, en fait, ça s'est fait naturellement. C'est ça que j'aime bien dans la musique, c'est que quand je fais de la musique, ça me sert de thérapie, tu vois. Et je vais très facilement réussir à transmettre des émotions. Et ça se joue énormément dans la prod, surtout. Dans la prod, comme tu dis, je mets beaucoup d'éléments mélancoliques. Mmh. En fait, moi, j'aime bien des mélos très mélancoliques et des drums bien patates. Et en fait, comme tu dis, ça fait ce contraste un peu entre, putain, on est triste, il y a la mélancolie, putain, on regrette plein de choses, il y a de la rancœur. Mais d'un autre côté, tu vois, il y a cet espoir avec, mmh. Avec les éléments percussifs qui viennent te donner du punch. Et vraiment, c'est ce que j'aime transmettre. En mode, c'est vrai, c'est la merde, c'est dur, mais ça va aller.
C'est marrant, tu vois, parce que dans l'instant, en plus, tu dis, je garde mes émotions pour moi.
Mmh.
Et en fait, il y a à la fois, tu gardes tes émotions, je pense, dans la vie de tous les jours.
Mais je les retransmets.
Et tu les transmets dans ta musique.
Ouais, et je pense même, c'est ça qui me permet d'avancer. Hein.
Il y a 3 mois, tu as également sorti le clip de What's Wrong,
yes.
Qui n'est pas dans Shitsuren, mais qui faisait partie d'un double single, on peut appeler ça comme ça.
En fait, What's Wrong fait partie de mixtape Bushido.
Okay.
Et du coup, j'ai sorti le clip pas mal de temps après, puisque voilà, moi je suis une galère en clip, j'ai pas de sous, donc je fais quand je peux. Mais super clip, fait par Yulen. Donc Yulen, très très bon clipper, très très bon graphiste, très très bon réal, gros big up à lui. Bientôt des nouveaux trucs qui vont sortir. Donc j'ai fait un clip avec 2 potos, je vous laisse la surprise, j'en dis pas plus. Et on l'a fait avec Yulen, ça sort dans pas très longtemps normalement.
Ok. Et pour Shitsuren, tu comptes sortir des clips ou c'est pas au bout du jour?
Honnêtement, franchement, j'ai pas de sous. J'aimerais bien pouvoir sortir des clips cool, mais n'ayant pas le budget, j'ai pas envie de proposer de la merde.
Est-ce que prochainement, on va pouvoir te retrouver en concert?
Le 25 mai, il y a le Space Colors de Inconnu à la briqueterie. Donc je passerai avec Astat. Et ensuite, il n'y a rien de prévu, il me semble, à part potentiellement peut-être un festival cet été, mais j'en dis pas plus.
Inconnu qu'on a invité il y a peu justement pour parler du Space Colors. Mmh. Tu peux nous parler un peu de ce collectif? Tu fais partie des membres fondateurs, je crois.
Je faisais partie.
Ouais.
Donc bon, je vais pas épiloguer dessus. Je fais plus partie du groupe.
Ok.
Mais voilà, c'est un groupe de production musicale qui s'est créé il y a 3 ans à peu près déjà quand même. Donc au début, j'ai fait partie de l'aventure en tant qu'artiste. Et voilà, moi je tiens à dire, bah, j'ai que du bien à dire d'Inconnu dans le sens où franchement c'est des bonnes personnes. Bod, qui est l'ingé son, est monstrueusement talentueux, il est extrêmement chaud, et d'ailleurs gros big up à lui, puisque si j'ai réussi à commencer à mixer mes sons etc tout seul, c'est grâce à lui. C'est lui qui m'a appris, c'est lui qui m'a donné plein de conseils, qui m'a donné aussi du matos, des logiciels et tout, tu vois. Donc franchement, très très bon groupe. BND, super rappeur, c'est mon gars de ouf, on se voit quasiment tout le temps. On fait beaucoup de sons ensemble. Donc franchement, moi j'ai que du bien à dire, même si ça aurait pu mieux se passer, même si je fais plus partie du groupe, tu vois.
Okay. C'est quoi la suite pour toi après Shitsuren? T'as déjà commencé un peu à bosser sur des trucs?
Ouais, j'ai beaucoup de sons en attente. Je pense que j'en ai une bonne dizaine là. Il y en a 2 que je vais faire juste après. Et encore une fois, comme je t'ai dit, comme les sons ils se font naturellement, à chaque fois j'essaie de les assembler. C'est comme des pièces de puzzle, Et généralement, par chance, les pièces fit ensemble, en fait. Et puis voilà. Donc je pense que d'ici, je vais attendre encore un petit peu, mais d'ici quelques mois, je vais ressortir un nouveau projet, ouais.
Est-ce que tu te fixes des deadlines, genre il faut que je sorte tant de projets par an ?
Honnêtement, non. Zéro deadline, zéro pression. Parfois même, je reste sans rien poster, sans activité pendant des mois. Parce que, ouais, en fait, à partir du moment où je me mets la pression, je fais plus les choses avec passion, tu vois. Et quand je fais plus les choses avec passion, ça se ressent. Donc ouais, pas de prise de tête.
Donc la musique, tu l'as fait par passion, c'est pour ça que t'es masqué quand tu rappes en concert ou quoi.
Exactement.
C'est ce que tu cherches dans la musique ?
Moi, honnêtement, ce que je recherche dans la musique, c'est juste de quoi pouvoir en vivre, tu vois. Donc, tu sais, demain, j'arrive à faire 3000 euros par mois avec la musique jusqu'à la fin de ma vie, je m'arrête là. Je cherche pas plus loin, franchement. Et puis, la cagoule, comme t'as dit, c'est par souci d'anonymat. Après, je vais pas mentir, je suis un mec assez timide aussi, tu vois. Donc, ça m'arrange bien d'avoir le visage caché quand je suis sur scène. Et puis voilà, c'est par rapport aussi au boulot actuellement, parce que je bosse. Et le boulot que je fais, je pense pas que mes patrons, mes directeurs et tout, kifferaient me voir cagouler sur scène. Donc, c'est pour ça que j'essaie d'être un peu discret.
Où est-ce qu'on peut suivre ton actu ?
Tout se passe la plupart du temps sur Instagram. J'ai que Instagram quasiment. Après, on peut s'abonner à ma chaîne YouTube aussi. Mais du coup, Instagram, c'est DRYSIIFT.
Et qu'est-ce qu'on peut te souhaiter pour la suite de Récif ?
Écoutez, un max de force pour réussir à faire encore de gros bangers. Et beaucoup de courage pour continuer à mixer, masteriser mes sons moi-même. Parce que putain, c'est une galère de ouf. Hein. Franchement, pour fitter, c'est pour que le son il passe, il a une qualité industrielle, tu vois. Ouais. Genre, c'est dur, c'est vraiment très très dur. C'est là que tu te rends compte que mixer, masteriser, c'est vraiment un métier, quoi. On l'oublie trop souvent, tu sais, on a accès à des home studios partout maintenant, mais vraiment, c'est un vrai métier, quoi. Et gros, gros big up à tous les ingés de France et du monde même.
Gros big up à eux. Et big up à toi, Dryshift.
Yes, merci beaucoup.
Tu voulais nous faire deux petits freestyles, je crois.
Ouais, j'ai deux petits sons à faire en freestyle, donc ça c'est des sons qui ont été faits il y a pas longtemps du tout, donc c'est ce qui sortira sûrement prochainement.
C'est de l'exclu.
C'est de la grosse exclu, ouais.
Carrément, on a l'exclu sur Radio Campus Amiens avec Dryshift.
Yeah. Du coup, encore une fois, c'est moi qui ai fait la prod. Bon, la voix, c'est un sample. J'ai essayé d'être bien bien agressif sur celle-là. Yeah. Dryshift, Astat, let's go. J'ai plus peur, je les repère tous. J'suis tellement foncé que je retrouve mes amis, je les repère tous. Les rap trop mal, un peu comme quand un grand père tous. J'frappe si fort, j'ai des grandes pattes douces. Pour stopper mon middle, faut des grandes pattes d'ours. Le rap, c'est même plus à qui rappera le mieux. C'est à qui touchera le plus de poussi. J'ai mal au crâne comme Akira, vieux bandeux. J'vous emmerde avec tous vos gossips. Avec la mort, très vite je négocie. Tous les mois je vérifie mon taux de leucocyte. Gros, des années durant, je vends des points grossistes.
Hey, tu veux savoir quoi ?
C'est devenu mon gars de ouf. Yeah. Parle pas de principe. Tous les jours faut que j'improvise. Tous les jours fuck la. Je les aligne comme un pro. Je perfore leur son car ils sont trop vides. On est trop vif avec mes gars, c'est sûr, on va les trouver. Je m'emballais, je suis trop colérique, faut que j'arrête de m'emballer. Je viens faire le ménage, allez, mange mon balai. Tous les jours je me prépare à aller en taule car je ferai pas de guerre. Mon cœur est froid comme si c'était l'hiver et que j'étais sans manteau. Je parcours l'univers et j'enlève pas mon casque comme si je suis de Mandalore. Quand je vais au bar je prends une menthe à l'eau. Je convoite pas la montre à l'autre là, je fais mon possible pour pas finir dans l'au-delà. Fils de, si je te, j'aurai rien d'un homme pieux. J'ai pas les vices d'un homme vieux. Au lieu d'aller vite, essaye de faire mieux. Au lieu d'aller vite, essaye de faire mieux que l'équipe d'en face. Je rejoue à Dofus, j'ai des cartes Pokémon. Je me fais des kiffs d'enfance. Ma team dans le rap, c'est l'équipe de France. Esquive pivot, middle fois. Tu fais le fou, je te l'ai mis deux fois.
Tu seras pas
mon ennemi deux fois. Pas la même religion, je te rassure, tu seras pas mon ennemi deux fois. Yeah. C'est l'essentiel, on a dit.
Merci pour tout ce qu'il m'a donné.
Yeah.
Sans lui, je serais probablement.
Eh, je serais mort, frérot, sans Dieu. Dieu merci. Let's go. Vraiment, je me suis surpassé sur la prod. Je crois que c'est ma meilleure prod.
Elle est incroyable en vrai.
Ah, ça tue, merci, ça fait trop plaisir. Ok, là, let's go, la boom bap. Faut faire revenir la boom bap au goût du jour. J'arrête pas de le dire en concert, les gens ils m'écoutent pas. Yeah. Il faudrait que je sois bankable, là je vais juste manger un kebab. Toujours un flow impeccable. Guette bien ces fils d'eux, ils veulent me faire.
Sérieux?
À la conversation, gros je reste mes fers. Ils veulent tester le cheval de course, mais j'ai refait mes fers. Je gagnais de l'argent avec un truc que j'aimais faire. Sorcière, elle a les pouvoirs d'Yennefer.
Waouh, ouais, non, c'est pas possible. Eh, si je peux vous donner un conseil.
Petit conseil.
Tenez-vous à l'écart de la sorcellerie et de tous les arts occultes.
Yeah. Vas-y viens on parle après, il avait bu un coup donc il me parle après. J'écris des rimes affalées sur le canapé.
Mais je vois rien.
Ça se trouve je fais un concert demain, je canne après. Chaud comme la mafia qu'à la brèche, j'ai pas de pouvoir magique. C'est juste dans mon esprit qu'à la brèche, je m'entraîne tous les jours. Je vais niquer des mères et je chiale avant. Je veux pas que la maille foisonne, je suis un peu comme Mike Tyson. Quand tu m'embrouilles, tu fais grave le mag de la somme. Approchez-vous de Dieu avant que le glaçonne. Je prie quand Dieu me façonne, je brille. Dieu va juger tous les coupables et faites pas sauter par le pont.
Ça sert à rien.
Quand je pue la défaite, je parle pas, je suis devenu sourd, gros, tout le monde me dit parle bas.
C'est chaud, j'entends plus rien.
J'ai pas de passe droit, j'arriverai en haut, parle bas. Et ouais, ma gueule, pas de passe droit. Faut bosser, c'est la vie, c'est dur. Mais c'est pas grave, on continue, hein. Let's go. Dry Shift, Astad, dédicace à tous mes gars. À Zomat, Goni, à NHL, à Roled. Big up à tout le rap français. Désolé si j'ai été un peu aigri ces derniers temps. En vrai, continuez de faire du son, c'est ça la vie. Petite prod du coup composée par Wham, encore une fois. J'ai essayé de faire un truc vraiment esprit boom bap de ouf. Et j'ai réussi. Je sais pas comment j'ai fait. Tu sais, ce petit grain un petit peu vieillot, un peu crade. Mais ouais, voilà. Pour l'instant, c'est voilà le niveau à peu près de ce qui arrive.
C'est la première prod boom bap que tu fais?
Non, j'en ai fait plein. Mais vraiment, pour avoir ce grain un peu vieillot, yes, c'est hyper dur. Et pareil, c'est les sonorités en fait. Faut trop faire gaffe aux sonorités que tu choisis. Parce que de nos jours, dans les packs de prod et tout, tout est vachement... je sais pas comment t'expliquer, mais c'est pas acoustique, voilà. C'est ouais. Pas acoustique. Faut essayer de chercher des trucs graves acoustiques, essayer de sampler de ouf. Et tu vois, c'est dingue, mais dans la boom bap, la snare, c'est ce qui prend quasiment le plus de place, tu vois. Alors qu'en trap, on va la baisser quand même vachement plus. Ça va être le kick en premier, alors que là, le kick, il est bien rond, il doit se fondre en arrière-plan, tu vois, genre, c'est plein de détails de ouf. Mais une fois que t'as capté ça, t'as vraiment un bon grain.
Ramener la boom bap en France.
Exactement, putain, faites revivre cette merde.
Lourd Dryshift, merci.
Bah, merci à toi, ça fait plaisir. Et puis, bonne continuation, plein de bonnes choses. Hein.
À toi également, et puis,
super.
Streamer Shitsuren.
Yeah, à fond, et y a pas que ça. Y a aussi Life is Good Sometimes Only, qui est sorti un petit peu avant, un deux titres. Et puis mixtape Bushido, et puis sur YouTube.
À bientôt, Dry Shift.
Allez, salut, super, merci beaucoup.
Vous venez d'écouter l'interview de Dry Shift qui est venu nous présenter son dernier projet, Shitsuren. Pour conclure cette émission, je vous propose d'écouter le deuxième épisode du podcast One More Round, réalisé par Antoine Sourdio, étudiant en master journalisme de l'UPJV.
Personne ne frappe aussi fort que la vie. C'est pas d'être un bon cogneur qui compte. L'important, c'est de se faire cogner et d'aller quand même de l'avant. C'est de pouvoir encaisser sans jamais, jamais flancher.
La boxe n'a pas dit son dernier mot. Vous écoutez One More Round, un podcast qui ne manque pas de punch. Au cinéma, Martin Scorsese, Clint Eastwood ou encore Sylvester Stallone l'ont filmé. Chez les mangaka, Tetsuya Shiba et Joji Morikawa l'ont dessiné. Tristan Bernard ou même Jack London ont écrit à son sujet. La boxe, au-delà de son impact sur les sportifs, a aussi eu un impact sur nous tous et a une place importante dans notre imaginaire collectif, tant elle a pu être à de nombreuses reprises dépeinte par des artistes. Toujours en compagnie de Sylvain, nous discutons de boxe, non pas en tant que sport, mais en tant que spectacle et objet culturel.
Donc c'est vrai que là, on s'attardait un petit peu plus sur, enfin en tout cas c'est là où je voulais en venir au départ, sur l'impact de la boxe sur les sportifs. Donc finalement il y a aussi un impact de ce sport sur le public et sur la société en général.
Oui, alors ça c'est complètement, c'est tout à fait net. un impact qui est d'ailleurs très varié, puisqu'on pourrait très bien distinguer à la fois les gens, enfin l'impact de la popularité de la boxe sur le public évidemment, mais même au-delà, c'est-à-dire du public, c'est-à-dire du public non spectateur, on va les appeler comme ça, c'est-à-dire des gens qui en fait connaissent la boxe, mais c'est pas pour autant qu'ils sont déjà allés voir un match en fait. Et ça, faut pas le sous-estimer, c'est-à-dire que c'est très puissant. Moi, c'est quelque chose qui me frappe toujours. Je pense que c'est le sport qui a été le plus saisi par les écrivains et par les cinéastes, tout sport confondu. C'est-à-dire que les plus grands écrivains se sont vraiment très tôt intéressés à la boxe, et même à la fin du 19e siècle. Hein, et puis on peut en citer des très 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 connus, Mark Twain, Jack London, tout cela, ils ont écrit sur la boxe, même des gens plus récents ensuite. Mais du côté du cinéma, c'est tout à fait le cas aussi. Pareil, les grands, Scorsese, bref, Kubrick, voilà, ils sont tous filmé de la boxe à un moment donné. Donc c'est un sport qui suscite une espèce de fascination. Bon, je pense que ça tient à la violence, hein, au type d'activité, c'est-à-dire c'est quand même une activité un peu surprenante, puisque l'objectif c'est quand même de frapper l'autre d'une certaine manière. Donc quand on y pense, c'est un truc, quelque chose d'un peu curieux. Mais en même temps, là aussi, il y a des travaux, notamment un sociologue qui est très connu, qui s'appelle Loïc Vacan, qui a bien montré qu'en fait, ce n'est pas une simple bagarre. En fait, c'est beaucoup plus compliqué que ça. C'est lui ce qu'il appelle une pratique savamment sauvage. Il appelle ça comme ça, c'est une belle expression. Et en fait, il montre bien qu'en fait, c'est extrêmement codifié, la boxe. Mais comme tous les sports, en fait. Et donc, ça a une forme, c'est un type de combat, un type d'affrontement physique très particulier. Et je pense que ça suscite une certaine fascination dans la... auprès des écrivains, auprès des artistes, auprès des cinéastes et auprès du public. Et aussi, c'est un sport qui a tout de suite, ça, moi, c'est vraiment quelque chose sur lequel j'insiste souvent, mais c'est un sport qui a tout de suite été mis en spectacle. Et donc, c'est un sport qui, tout de suite, dès qu'il a émergé, dès qu'il a pris de l'ampleur, il a été pensé autant comme un sport avec une réglementation, des catégories de poids, des portes des gants, bref, la taille du ring, la durée des rounds, la durée entre les rounds, etc., que en même temps, ça a tout de suite été mis en scène, sous une forme de spectacle. Ce qui est frappant, on en voit des restes, hein, d'ailleurs, c'est d'ailleurs que c'est un sport qui continue d'être fortement mis en scène. Alors aujourd'hui, les grands combats, ils sont plutôt à Las Vegas, etc. Mais avant, ils étaient dans les grandes salles de spectacle, les Folies Bergères, le Casino de Paris, les grandes salles de spectacle parisiennes. Aujourd'hui, elles peuvent être dans d'autres lieux, mais elles sont à Bercy, etc. Mais elles sont quand même dans des immenses salles où on voit toute la mise en scène qu'il y a autour des combats, avec l'avant-combat où il y a le boxeur se chambre, il y a les interviews, la pesée, c'est quelque chose de très impressionnant, de très mise en scène en fait, hein, où ils sont dénudés, voilà, tout un truc, il y a tout un jeu dans les regards, dans les insultes, dans le chambrage, etc. Il y a autour, hein, quand il suffit d'aller à un match, on voit tout ce qui entoure, avec du coup l'annonce des rounds sur les panneaux, etc., aux États-Unis notamment. Bref, il y a tout un folklore en fait autour de l'événement qui montre bien que ça a été quelque chose qui a été pensé comme un sport et comme un spectacle, et ça contribue à sa popularité, à sa diffusion, en fait, en France, mais pas seulement.
La boxe est pensée dès le début comme un spectacle, ce qui explique en partie qu'elle soit devenue très tôt un objet de fascination. Alors que nous continuons notre conversation, Sylvain m'explique que ça tient également du fait que les boxeurs, contrairement au sport d'équipe, sont seuls face à leur adversaire. Ils sont iconisés, immédiatement perçus comme des héros du ring, des gladiateurs modernes. Et c'est sans doute pour ça que depuis sa création, le noble art a été la muse de bien des artistes.
Ce qui est frappant, c'est que finalement, la boxe est un sport qui a, dès ses débuts, et c'est toujours le cas, c'est pour ça que c'est une particularité, qui a été saisi à la fois par ce qu'on peut appeler... entre guillemets, la culture populaire et entre guillemets, la culture légitime. C'est-à-dire que vous avez au moins, dès les débuts de la boxe, des écrivains grand public qui s'intéressent à la pratique et des écrivains très cotés sur le marché littéraire et qui vont s'intéresser. C'est pareil, je pense, à l'heure actuelle, c'est pareil pour le cinéma. On a en même temps des cinémas, on va dire, des cinémas d'action, blockbuster, etc., qui s'intéressent à la boxe. En même temps, vous avez ce qu'on considère comme étant les meilleurs cinéastes, etc., qui se sont aussi intéressés à la boxe. Donc, c'est pas rien, c'est-à-dire que c'est, tous les phénomènes sociaux ne sont pas comme ça. Il y a des phénomènes sociaux qui sont l'apanage des classes populaires, des phénomènes sociaux qui sont l'apanage des classes de la culture légitime. Là, on a quelque chose qui est un peu transclasse, hein, d'une certaine manière, donc c'est assez notable, déjà. Et donc, ce qu'on observe, c'est que là aussi, il y a plusieurs choses. C'est aussi l'une des explications du succès de la boxe, c'est que les relais dont elle va bénéficier, notamment dans la culture, sont des relais qui vont lui permettre en fait, de mettre en valeur plusieurs aspects de la pratique. On peut à la fois mettre en valeur la possibilité d'une ascension sociale par la boxe, c'est-à-dire l'idée qu'en en boxant, on va s'en sortir et, dans la vie et puis pouvoir se stabiliser, etc. Donc ça, c'est pareil, hein. Dès les débuts du XXe siècle, on a des cas, on a un grand écrivain de début du XXe siècle français qui s'appelle Tristan Bernard, qui a fait un roman là-dessus, en fait, hein, sur la possibilité de devenir quelqu'un, on va dire, d'être par le ring. En même temps, c'est aussi, il y a tout l'univers sur la violence qui fascine aussi beaucoup, hein, et là aussi, je sais pas, vous prenez Raging Bull notamment, le film, on voit comment la violence, en fait, elle est au cœur du film, hein, clairement, il y a des scènes très, 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 très violentes, avec justement une mise en scène de la violence, justement les scènes la plus violente, elle est en noir et blanc, etc. Donc on voit comment aussi il a joué là-dessus. On a tout l'univers dont on n'a pas parlé qui entoure la boxe, ou les représentations plutôt de la boxe, c'est on va dire, je sais pas, le gangstérisme, le pari, les paris et la mafia, en fait, hein, on va le dire un peu comme ça, mais il y a beaucoup de films aussi comme ça, où du coup, tout s'est entouré de la boxe serait contrôlée par la mafia, et du coup, il y aurait toujours, pour des paris, tu vas simuler un match et te laisser battre ou pas. Et, donc là aussi, c'est des représentations, c'est-à-dire que oui, sûrement, il y a dû avoir des cas, etc. Mais bon, c'est aussi un imaginaire qui est développé autour de ça, parce que c'est une pratique violente, parce que c'est une pratique où il y a beaucoup d'argent, parce que c'est une pratique où très tôt il y a des paris, etc., etc. Mais, et puis qu'il y a des figures associées à la mafia, donc tout de suite, voilà. Mais donc bref, c'est compliqué, hein, du coup, de répondre à votre question, mais je pense que c'est la force de la boxe, entre guillemets, c'est de réussir à la fois susciter l'attention des artistes de la culture au sens large, à la fois pour la violence, à la fois pour la possibilité d'action sociale, à la fois pour les enjeux économiques qui l'entourent, et au fond, à la fois pour, on va dire, la mise en scène et les grands spectacles et les grands événements qu'elle représente. Donc, il y a tout ça, et peut-être lié à l'ascension sociale, il y a aussi le côté école de discipline, etc. Je pense que, du coup, comme vous avez parlé de cinéma, je pense au film Million Dollar Baby, on voit vraiment ça, comment c'est finalement une espèce de la boxe est utilisée comme école de discipline et d'ascétisme, en fait, auprès d'une personne, en s'entraînant régulièrement, tout le temps, répétant les mêmes gestes, etc., etc. Donc, voilà, je pense qu'elle a été utilisée pour servir différentes choses. Ces usages qui sont faits dans la culture de la boxe et les manières de la voir, les représentations qu'on va véhiculer à travers ce sport, ça va aussi servir la boxe, dans la mesure où ça va contribuer à sa popularité. Ça contribue au fait qu'on peut en dire autant, on peut l'utiliser pour aborder la question des paris, on peut l'utiliser pour aborder la question de la violence, on peut l'utiliser pour aborder la question de l'ascension sociale, on peut l'utiliser pour aborder la question du courage, etc., etc. Donc en fait, le fait qu'elle puisse être investie comme ça de différentes manières, ça contribue aussi à son succès, à sa diffusion, à sa popularité, clairement.
Curieux d'avoir son avis sur la question, j'ai appelé Gaël, devenu critique de cinéma après avoir obtenu son master en cinéma à l'UPJV d'Amiens, qui a travaillé pendant 2 ans au sein de la rédaction d'Écran Large, et qui écrit aujourd'hui pour le site Ciné-Cinéphile.
C'est un sport qui est très représenté dans le 6e art.
Oui, c'est vrai que c'est un des sports les plus représentés. Beaucoup de biopics sportifs parmi les meilleurs dans l'histoire du cinéma sont sujets à la boxe. Moi, je pense notamment en premier lieu à Raging Bull de Martin Scorsese, par exemple, qui est un biopic sur le boxeur Jay de la Motta. Il y a évidemment la saga Rocky, on ne peut pas passer à côté du genre sans évoquer cette saga, qui est culte et qui est très représentative à la fois des valeurs sociales que véhicule ce sport, et en même temps aussi, c'est aussi un genre qui a ses propres règles en termes esthétiques aussi au cinéma. Et c'est un genre aussi qui a connu un espèce de regain aussi dans les années 2000, mais à la fois aussi 2010. C'est un genre qui est toujours là, en fait, un petit peu le film de boxe au cinéma.
Un genre qui est toujours là. Gaël n'est pas un passionné de boxe. Ce n'est pas un sport avec lequel il est spécialement familier. Pourtant, il me parle de ses films de boxe avec amour. Ils ont une place dans sa vie, son imaginaire. Ils ont contribué à bâtir certaines de ses valeurs. Sans s'en rendre compte, il me le confirme, à demi-mot. La boxe a impacté sa vie, à lui aussi.
Quand on regarde toutes ses œuvres en commun, notamment que ce soit la saga Rocky, que ce soit un film comme Million Dollar Baby, même Raging Bull d'une certaine manière, ce sont des films qui véhiculent des valeurs sociales qui sont assez universelles en fait. Moi je trouve que notamment dans la saga Creed, il y a tout, notamment cette question de transmission, d'héritage qui est très belle. Il y a aussi le fait que toute la saga Rocky parle qui sont des très belles leçons de vie, hein. Certains films vraiment, je trouve qu'il y a des leçons de vie sur la persévérance, sur le lâcher prise, sur le deuil aussi. Enfin, il y a vraiment de très belles notions dans cette saga. Et en même temps aussi, il y a toute une dimension politique qu'on ne peut pas retirer, que ce soit à cette saga ou à d'autres films du genre, qui font notamment que c'est une saga qui globalement parle du rêve américain, et que c'est aussi ce qui fait qu'elle est très populaire dans le cinéma américain. C'est une espèce de success story. C'est un peu un loser au début, Rocky, qui vient de la rue, qui vient... il a des petits boulots, presque mafieux, hein, limite, hein. Et où en fait il va accéder au rêve américain, sachant qu'il est lui-même un immigré italien, face à Apollo Creed, qui est lui-même la représentation d'un rêve américain réussi, dans le sens où c'est un afro-américain qui a réussi à accéder à cette gloire. Il y a toute cette idée-là, du coup, il y a toute la saga Rocky de façon est très politique. Raging Bull est tout aussi politique, dans le sens où c'est presque un anti-Rocky qui parle aussi du rêve américain, mais d'une manière beaucoup plus nihiliste, beaucoup plus pessimiste. Enfin, c'est un rêve américain un peu déchu, ce dont parle Scorsese dans toute sa filmo de toute façon. Mais il y a cette idée que dans le genre, vraiment, globalement, tous les films de boxe parlent du rêve américain, et c'est quelque chose qui aux États-Unis est très populaire. C'est un peu un truc auquel beaucoup de gens n'ont pas accédé. C'est un peu un espèce de rêve déchu, en fait, qui n'existe plus vraiment, mais qu'on aime bien se rappeler. Et c'était très populaire, bien sûr, dans les années 80 aussi.